OK, on va continuer notre 24e leçon dans notre série sur la sanctification. On va continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière, la deuxième partie de les richesses insondables de Christ. Alors, on se souvient qu'on avait pris le verset Éphésiens, chapitre 3, verset 8, pour expliquer un petit peu le contenu. Et qui, le verset dit « C'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce » d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ. Alors, on avait cherché un petit peu, expliqué brièvement pourquoi Paul utilisait l'expression « à moi qui suis le moindre de tous les saints », alors qu'on sait par différents passages et par l'étude de sa vie qu'il avait eu une vie particulièrement intense, particulièrement dévoué au service du Seigneur et qu'il se considère lui-même comme le moindre de tous les saints. Alors, on avait vu que la seule façon d'expliquer ça, c'était que sa proximité au Seigneur. Plus tu es proche du Seigneur, plus tu sens ta misère, plus tu sens la profondeur de ta corruption, etc. Alors, on avait vu qu'il avait utilisé ce passage-là. On avait regardé différents passages où il nous raconte qu'est-ce qu'il avait vécu au service de Christ. Et on avait arrivé au deuxième point qui était ce que Paul disait aussi de son ministère. Son ministère, il ne le considérait pas comme si lui avait pris la décision un bon jour. « Bon, moi, je vais décider de donner ma vie au Seigneur et je vais faire ci, je vais faire ça. » C'est pas ça qu'il avait décidé. Ça disait vraiment que il avait reçu du Seigneur la grâce. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, même au contraire. Moi, j'aime bien la définition de grâce, non pas comme une faveur imméritée, mais comme une faveur déméritée. Parce qu'on mérite l'inverse et le Seigneur nous donne quelque chose de grand. Alors, Paul avait tué des chrétiens et le Seigneur lui donne cette grâce, cette faveur déméritée, il ne méritait pas ça du tout, de devenir l'ouvrier, de devenir l'apôtre dont le Seigneur se servirait pour répandre son évangile auprès des païens. Ce n'était pas une petite grâce. Alors, c'était important qu'on voit ça. Alors, la grâce qu'il avait reçue, c'est d'annoncer l'évangile aux païens. Et on était rendu qu'on se devait de se rappeler les choses suivantes concernant l'office ministériel. On avait vu, on va les réviser rapidement. L'office ministériel, il faut se souvenir que c'est une institution scripturaire. Deuxièmement, que c'est une provision divine, sage et utile dans l'ensemble des ministères que le Seigneur permet qu'ils s'exercent dans son Église. Et le troisième, c'était que l'office ministériel, c'est un privilège honorable. Ensuite, on avait vu que l'office ministériel est honorable, mais aussi qu'il est exigeant en termes. Ça comporte des profondes responsabilités et ça comprend aussi des souffrances que les gens ne comprennent pas nécessairement. C'est le côté glamour d'être en avant puis de prêcher. Là. Ça, c'est le côté, si tu veux, agréable. Mais il y a bien d'autres choses dans le ministère que ça, là. Et bien souvent, c'est des choses qui te font souffrir beaucoup. Alors, l'un ne va pas sans l'autre. Quelqu'un ne peut pas avoir été dans le ministère, l'avoir fait sérieusement, comme Paul il disait qu'il avait les soucis de toutes les églises. Donc, il connaissait toutes les églises, il connaissait les problèmes de toutes les églises, et ça finissait par venir le ronger. Et quelqu'un qui prend son rôle au sérieux, ça fait ça pour tous ceux qui sont dans le ministère. C'était important de s'en rendre compte. On avait parlé aussi la semaine dernière que ce n'était pas une bonne idée que de continuellement critiquer les ministres que Dieu a appelés à servir auprès d'une assemblée en particulier. Il faut se souvenir que quand on fait ça, on ne le fait pas de façon directe, mais on est en train de chialer contre le choix du Seigneur. C'est comme si on t'avait dit, « Ben voyons donc, ça ne se peut pas que tu aies choisi ça pour nous. » Pourtant, c'est ça, c'est lui qui le fait, parce qu'il dit dans les Écritures que c'est lui qui appelle. Et quand on chiale, on est des chialeux professionnels. Il ne faut pas se le cacher. Là. Alors, souvent, on est des critiqueux. Et tout ce qu'on voit, c'est le côté Prenez n'importe quel ministère. Il y a toujours des côtés négatifs, il y a toujours des côtés plus ou moins agréables à la personne. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est plein de choses que vous ne voyez pas, pourtant que le Seigneur se sert de cet homme ou de ceux qui sont dans le ministère pour faire avancer ses enfants. Alors, le troisième point, c'est vraiment de regarder ce que Paul dit du grand sujet de sa prédication. C'est le troisième point. Quand il parle, il dit le sujet de sa prédication, quand il s'est promené un petit peu partout en Asie, hein, s'il voulait parler des richesses incompréhensibles de Christ. Quand on s'arrête à penser au mot « incompréhensible », je pense que le mot « incompréhensible », on a vu que ça peut être inscrutable, ça peut être insondable. Moi, je préfère insondable parce qu'incompréhensible, ça laisse sous-entendre qu'on ne peut pas les comprendre. Quand on dit quelque chose est incompréhensible, c'est comme si on disait « je ne suis pas capable de le comprendre ». On peut comprendre les richesses de Christ, mais on ne les comprendra jamais ce qu'on appelle « exhaustivement ». On va en connaître une partie, on va être émerveillé devant certaines choses du Seigneur, mais jamais on ne comprendra en profondeur jusqu'au bout. Parce que chacune de ces richesses sont infinies. Et quelque chose qui est infini, par définition, tu ne peux pas jamais le comprendre jusqu'au bout. Même quand on va être rendu au ciel, on va encore découvrir les richesses de Christ. Et ça va être notre éternité va servir à découvrir les richesses de Christ. Il ne faut pas penser qu'à cause qu'on a lu Éphésiens, qu'on a lu un petit peu les Écritures, qu'on a fait quelques cours de théologie, qu'on comprend les richesses incompréhensibles de Christ. Là. C'est tellement gros, ça, ce sujet-là. Là. Alors lui, sa vie, à partir du moment que le Seigneur l'a appelé, ça a été de répandre les richesses, de faire connaître les richesses insondables de Christ. Alors Paul, bien sûr, réalise, lui, jusqu'à quel point la personne de Christ est insondable et ineffable. Quand on parle de ineffable, qu'est-ce que ça veut dire, le mot ineffable? Le mot ineffable, ça veut dire qu'on n'est pas capable de trouver des mots pour expliquer cela. Ineffable, ça veut dire que tu ne peux pas en parler vraiment avec intelligence très loin. Là. Ineffable, ça veut dire que même tu serais la personne la plus capable de parler et faire des discours. Quand tu parles des choses de Christ, reste dans l'humilité parce que t'as encore bien des croûtes à manger, comme on dit. Alors, on va examiner un petit peu brièvement qu'est-ce que c'est, quelques-unes des richesses de Christ. Alors, premièrement, on peut dire les richesses insondables de la personne de Christ. Qui il est? Les Écritures nous apprennent qu'il est un de les trois personnes de la Trinité. Donc, tous les attributs que le Père a, tous les attributs que l'Esprit a, Christ les a, et chacun de ces attributs-là, il les a à la perfection, il les a de façon infinie. Donc, quand on parle en théologie, souvent on va parler de l'union miraculeuse de la nature humaine et de la nature divine de Christ. Et tous les théologiens s'entendent pour dire que c'est quelque chose de mystérieux. Quand tu essaies de t'expliquer ça, là, c'est facile à dire de même. Là, hein, la nature humaine, la nature divine s'est jointe à la nature humaine, puis il y avait une personne puis deux natures. La pleine nature humaine puis la pleine nature divine. Alors, les richesses insondables de Christ, l'union miraculeuse des deux natures humaines et divines, c'est un profond mystère. À titre de Dieu, Jésus est puissant pour sauver. À titre d'homme, il a tout ce qu'il faut pour être notre chef. Hébreux, chapitre 4, verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses par ressemblance, mais sans péché. » Alors, on a Hébreux, chapitre 2, verset 18 aussi, qui nous dit par rapport à Christ, « Car en ce qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Alors, n'imaginons jamais que Christ ne comprend pas ce qu'on vit. Les tentations, il sait ce que c'est, et c'est pour ça qu'il dit que, comme homme, il connaît ce qu'on vit, les souffrances qu'on vit, il les connaît très bien. Donc, les richesses insondables de la personne de Christ. Et là, si on voudrait aller en profondeur, dans juste l'étude des merveilles infinies et insondables de la personne de Christ, on en aurait pour des mois et des mois et des mois. Prenez des gros bouquins de théologie, puis prenez la christologie, puis étudiez-les sur 100 pages, sur 200 pages. Vous allez voir que tous les auteurs s'entendent à dire que la personne de Christ, c'est un sujet infini, insondable, d'une grandeur. Alors, qu'est-ce que Paul a fait durant tout son ministère? De parler des richesses insondables de la personne de Christ. Maintenant, il y a d'autres richesses insondables. Les richesses insondables de l'œuvre de Christ. On parle souvent de la personne et de l'œuvre de Christ. Autrement dit, la personne, c'est ce qu'il est, et son œuvre, c'est ce qu'il a fait sur cette terre quand il est venu ici. Alors, le Christ a terminé l'œuvre que le Père lui a confiée. Et quelle est cette œuvre-là? L'œuvre de l'expiation pour le péché. Autrement dit, tous les élus que le Père avait choisis de toute éternité, Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, a accepté volontairement de subir le châtiment qu'aurait dû subir chacun de ces élus-là en payant pour leur péché en enfer. Il l'a accepté de le subir à leur place et a accepté aussi d'accomplir à leur place la loi que Dieu exigeait que chacun de nous accomplisse et qu'aucun d'entre nous ne fait. Alors, l'œuvre de l'expiation pour le péché, après ça, l'œuvre de la réconciliation. Dieu se servit de Christ pour réconcilier le monde avec lui. Après ça, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la satisfaction, l'œuvre de la substitution. Juste ces sujets-là, là, on pourrait prêcher des mois de temps. J'exagère pas, là. On pourrait prêcher des... Si on y rend en détail, là, prendre tout ce que les Écritures disent dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et aller en profondeur sur l'œuvre de Jésus-Christ, on en aurait pour des mois, des années même. Alors, dans Jean, chapitre 17, au verset 4, le Seigneur Jésus lui-même, dans la prière sacerdotale, dit « Je t'ai glorifié sur la terre. » J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et ce n'était pas un petit ouvrage. Quand on vous allait, par exemple, dans des chapitres comme le Gethsémané, où il y avait des grumeaux de sang qui tombaient, son angoisse était tellement intense, son père lui faisait voir tellement tous les péchés du monde qu'il portait sur ses épaules. On ne peut pas comprendre ça. C'est des choses qui nous dépassent de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, il y a d'autres richesses insondables, celles de ce qu'on appelle les offices de Christ. Le Christ, maintenant, vit à la droite de Dieu. Et il accomplit en ce moment même les offices, plusieurs, on en a nommé quelques-uns. Encore là, on pourrait prendre chacun et développer. Les offices de notre médiateur. On dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, notre avocat. Moi, je vais vous dire une affaire. Quand il vous arrive un coup dur, là, que vous avez besoin d'en avoir un avocat, là, vous êtes très content d'en avoir un bon. Mais on peut-tu avoir un meilleur avocat que Jésus-Christ? C'est lui qui nous défend auprès du Père actuellement, parce que les Écritures nous disent que le malin est continuellement en essayer dans la présence de Dieu à nous accuser. Regarde qu'est-ce qu'il fait, là, un tel. Regarde qu'est-ce qu'a fait un tel. C'est-tu ça, là, tes enfants? Puis, mais qui nous défend? Jésus-Christ. Parce qu'il, certainement qu'il rappelle au Père, « Mais, Père, j'ai payé pour ce péché-là. » Et d'avoir un pareil avocat dans le ciel, c'est quelque chose de... Notre souverain sacrificateur, notre intercesseur, ça nous dit qui intercède pour nous, notre berger, notre surveillant, notre médecin, notre frère, notre époux. Et quand je vous dis chacun de ces titres-là, là, on pourrait développer et développer et développer et développer les trois offices de Christ. Le fils de roi, le fils de sacrificateur et le fils de prophète. Des choses extraordinaires. Les richesses insondables maintenant des noms et des titres de Christ. Maintenant, quand j'étais à Rouyn-Noranda, j'ai fait une recherche pour essayer de trouver les noms et les titres de Christ. Dans les Écritures, on va dire l'agneau de Dieu, on va dire. Savez-vous combien il y en a que j'ai trouvé? 105. Si on nous disait à nous qui sommes présents ici ce soir, nomme-moi-en donc 20. C'est là qu'on se rend compte que les Écritures sont d'une richesse, mais on est tellement négligent et on est loin de connaître les Écritures comme on se devrait. On se devrait, là, après 25-30 ans de vie chrétienne, puis on devrait dire à quelqu'un, nomme-moi les noms et les titres de Christ. Puis la personne devrait être capable de d'en nommer une centaine. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient faire que Christ, ses noms, chacun de ses noms, chacun de ses titres manifeste un aspect, une facette quelconque de la personne de Christ. Et on a besoin de mieux connaître ces choses-là parce que c'est révélateur de sa personne et ça nous montre un côté de sa richesse dont les Écritures nous parlent. Voyez-vous, on va nommer quelques-uns sur plus d'une centaine. Chaque nom et titre est rempli d'une riche signification et révèle un aspect particulier de Christ. On va en nommer juste quelques-uns, on n'ira pas dans les 100 parce qu'on ne sera pas sortis d'ici demain matin. L'agneau de Dieu, le pain de vie, la fontaine d'eau vive. C'est beau ces noms. Hein? Même juste les nommer, c'est évocateur. La lumière du monde, la porte, le chemin, le rocher, la pierre angulaire. Là, je viens d'en nommer 7 ou 8, mais il y en a 105. Puis là, je dis 105, ceux que j'ai trouvés. Ça ne veut pas dire que je les ai tous trouvés au complet. Alors, c'est très riche. Quand on rentre dans des choses, des sujets comme ça, juste prendre les noms et les titres de Christ, on pourrait en avoir pour des mois à étudier ça. Et ça serait d'une... On serait béni en le faisant. Maintenant, autre chose qui fait partie de ces richesses, les richesses de ses attributs et de ses dispositions. Alors, on dit que quelqu'un est bien disposé à notre égard. La richesse de ses attributs, bien entendu, on parle des attributs de Dieu. Les attributs de Christ et les attributs de Dieu. Dans certains livres de théologie, il n'y a pas un livre de théologie qui n'utilise le même nombre, mais en général, on peut dire que autour de 25 attributs, la sagesse, l'amour, la miséricorde, la patience, et là, on annonce la liste, au moins 25, et dans chacun, c'est insondable. Ça veut dire que même si le Seigneur permettrait que je comprenne de mieux en mieux et de plus en plus, disons, juste l'amour de Christ, puisque c'est insondable, un attribut, l'éternité ne me suffirait pas pour en découvrir toutes les facettes, toute la richesse. Quand on dit l'amour de Christ, quand on dit dans Jean que le Seigneur a fait tellement de choses que si on est réécrit dans un livre, le monde lui-même ne pourrait pas contenir ce qu'il a fait. Quand on lit les évangiles, on s'imagine-tu avoir vu et avoir compris et avoir été témoin de tout ce que Christ a fait? Parce qu'il utilise l'image de dire que si on écrivait dans des livres tout ce que Christ a fait jusqu'à qu'il est venu sur la terre, il fait encore des choses dans le ciel, mais juste sur la terre, ça disait que le nombre de livres qu'on écrirait, le monde ne pourrait pas contenir. Hey, imaginez-vous, c'est... Alors, avant qu'on découvre tous les côtés, toutes les choses que le Seigneur a fait par amour pour chacun de ses enfants, ce serait inépuisable en soi. Alors, les Saintes Écritures et le Nouveau Testament, en particulier, nous parlent de la richesse de sa miséricorde, de son amour, de sa compassion pour les pécheurs. Moi, je me souviens, je vais vous raconter ça, car c'est quand que je suis venu au Seigneur, j'étais dans un piètre état spirituel. Je faisais dur sur tous les aspects de ma vie. J'étais dans le fond du baril, comme on dit. C'est drôle comment que le Seigneur se sert d'un ami d'enfance qui me donne un petit Nouveau Testament. Et j'amène ça chez nous. puis je me mets à lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, là, je l'avais entendu parler quand j'allais à l'école. Mais pour avoir pris les Écritures dans mes propres mains, puis pour avoir relu ce qui est marqué dans les Évangiles, je ne l'avais jamais fait, adulte. Là, j'étais rendu à 33 ans. Et je lisais dans mon lit l'Évangile de Matthieu. Et là, j'arrivais au passage où il y avait la prostitution. Puis là, moi, j'avais pas de misère à m'identifier avec la grande pécheresse, une prostituée. Tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup de péchés qui font en général ces filles-là, ou les prostituées mâles, c'est la même affaire. Mais je n'avais pas de misère à m'identifier et juste avoir la bonté du Seigneur. Quand je voyais les pharisiens qui voulaient tirer des roches, ils voulaient la lapider. Puis là, le Seigneur a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre. Mon cœur, là, il faisait comme un morceau de beurre qui rentre dans une poêle qu'on met sur un rond rouge. Je broyais comme un veau. Ça venait me chercher parce que le Seigneur avait déjà fait une œuvre de grâce dans mon cœur. Mais c'est drôle parce que des fois, on peut avoir été dans des églises, on peut avoir été à l'école, on peut avoir entendu ces histoires-là des dizaines et des centaines de fois, puis ça nous laisse complètement indifférents. Mais quand le Seigneur vient habité par le Saint-Esprit et qui trouve l'intelligence à la bonté du Seigneur, là, ce que je voyais, c'est le Seigneur qui pardonnait même des grands pécheurs. Et je m'identifiais moi-même comme étant un grand pécheur. Et ça me touchait, là, comme un être humain aurait essayé de me toucher, j'aurais jamais été capable de me toucher à ce point-là. Alors, le Seigneur nous montre le pouvoir qu'il avait dans... De pardonner, la compassion qu'il avait pour les pécheurs, son pouvoir de pardonner, de sauver. Et dans les quatre évangiles, il y en a-tu des histoires qui sont touchantes? Hein? Les aveugles, les sourds, les muets, les apôtres qui sont dans la crainte, le Seigneur les calme. Et toute la quantité de choses qu'on voit, la bonté du Seigneur se révéler, c'est tellement riche. Alors, on sait que le Seigneur est disposé à recevoir, comme il dit dans les Écritures, tous ceux qui viendront à lui. Et à transformer par son esprit le plus dur des cœurs et le pire des caractères. J'ai des livres à maison sur des biographies. Et quand on regarde des fois les biographies des personnes, on se dit, ça se peut-tu que cette personne-là soit devenue ce qu'elle est devenue par la suite? Quand vous prenez l'exemple, celui qui a eu là, en Angleterre, lui qui a eu en Angleterre les orphelinats, George Miller. Quand vous lisez la biographie de George Miller, là, c'est un voleur. Quand il était jeune, là, c'était un voleur. Et il était parti pour faire un voleur et un ivrogne. Et le Seigneur est venu le chercher. Regardez ce qu'il a fait dans sa vie après. C'était extraordinaire comment le Seigneur a utilisé cet homme-là dans sa vie. Il n'a jamais demandé une scène à personne et le Seigneur a permis qu'il construise des orphelinats et qu'il s'occupe de 2000 enfants sans jamais demander une scène à personne. Toute sa vie n'a été qu'une vie de prière et une vie de foi à croire à ce que le Seigneur a fait. Pourtant, il était parti pour faire un ivrogne et un voleur. Regardez ce que le Seigneur en a fait. On parle encore de son œuvre aujourd'hui, de George Miller, et on est ébahi. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça, là. Et on pourrait multiplier les exemples. Là, je nomme un qui me monte à l'esprit, mais il y en a des milliers, et je dirais même des centaines de milliers. Certains viennent au Seigneur alors qu'ils ont eu une vie de péché plus ou moins petite, qu'on pourrait dire. Mais pour certains... La vie de péché avait été d'une très, très grande... Alors, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Alors, le Seigneur est riche en patience envers les croyants faibles. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé et vous vous êtes déjà regardé comme étant un croyant faible. Vous vous regardez puis vous dites, « Oh mon Dieu, que je fais pitié. Oh mon Dieu, que je fais pépique. Oh mon Dieu, que je suis dans ci. Oh mon Dieu, que je suis dans ça. » Mais le Seigneur est bon envers les faibles. Il nous tolère. Combien de fois il a dit aux apôtres, gens de petite foi? Ces gens-là étaient avec lui pendant 3 ans, à vivre avec lui jour et nuit. Puis il y avait encore des moments de... Et le Seigneur leur disait, il était bon envers eux, en étant patient. Combien de fois je remercie le Seigneur de sa patience, parce que dans mon cas, je peux vous dire, ça y en apprenait pas mal. Riche aussi en sympathie pour ceux qui sont déprimés, pour ceux qui sont découragés. Et infiniment riche aussi dans la récompense qu'il donne à ses élus. Quand on regarde l'ensemble des choses que le Seigneur nous donne dans notre vie chrétienne, c'est énorme. Parce que... Mais si on compare ça à ce qu'il va nous donner quand on va traverser, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Il va nous donner des richesses d'une incroyable profondeur, d'une incroyable satisfaction, de pouvoir vivre avec lui dans l'éternité. Alors, la vie éternelle, c'est pas un petit cadeau, là. Il faut s'arrêter parfois et à réfléchir, à méditer sur la richesse que le Seigneur nous donne. Alors, toutes ces richesses-là dont on vient de parler sont infinies et inépuisables. Tu sais, vous avez un puits, là, puis vous prenez, lâchez une chaudière dans le fond, vous la remontez. Vous le faites, disons, 5000 fois. Ça peut que le puits commence à mener des fois. Là. Mais quand on parle des richesses de Christ, comment vous plongerez votre chaudière 1 million, 1 milliard, 10 milliards de fois? C'est insondable. Toutes les richesses de Christ, tous les attributs de Christ, chacun de ses dispositions envers nous sont insondables. J'ai 3 applications. Ce serait une étude qu'on pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais 3 applications. Alors, J.C. Ryle, il termine comme ça, il dit « Terminons notre brève étude en se posant quelques questions de nature pratique. » La première, « Que pensez-vous de vous-même? » Bonne question, hein? Nous avons vu ce que Paul pensait de lui-même. « Quelles sont vos pensées vous concernant vous-même? » Avez-vous expérimenté ce fondement que vous êtes un pécheur coupable aux yeux de Dieu? Connaissez-vous bien l'état de votre cœur? La connaissance de soi est le premier pas vers le ciel. Avez-vous senti la perfection infinie de Dieu? Avez-vous expérimenté et connu l'étendue de votre corruption et de vos innombrables manquements envers lui, depuis que vous êtes chrétien? Alors, prions. Seigneur, montre-moi ma misère et ma dépravation. 2e application. Que pensez-vous des ministres de Christ? Répondre à cette question avec honnêteté révèle souvent l'état de notre cœur. Que pensez-vous du ministre fidèle qui expose votre péché et travaille votre conscience? Parce que les Écritures nous disent qu'à la fin des temps, les Églises vont se donner une foule de docteurs parce qu'ils ne seront plus capables d'entendre les choses. Parce que la parole de Dieu, quand on parlait tantôt de demander l'onction du Saint-Esprit, parce que l'onction du Saint-Esprit, si on étudie la Bible d'une façon systématique, là on étudie Genèse, il y a un paquet de péchés que l'Esprit nous montre qui sont nos péchés. Et ça ne plaît pas à l'homme. Alors quand quelqu'un est fidèle dans le ministère et qui annonce des choses difficiles, faut pas surtout dire, ben là, il est-tu fatiguant avec ça, là? Parce que c'est Dieu qui vous parle à vous. Et quand on fait ça, on est en train de dire à Dieu, c'est pas la personne qu'on a besoin. Alors, c'est ça que les Écritures disent. Ils se donneront une foule de docteurs qui vont leur dire les choses qu'ils veulent entendre, les oreilles leur démangeant. 3e application. Que pensez-vous de Christ lui-même? Est-il avant toute chose dans vos vies? 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici le témoignage. c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Qui a la vie, qui a le Fils, a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Quel beau verset qu'on peut utiliser des fois avec des gens qui ne croient pas qu'on peut avoir la certitude qu'on est sauvé maintenant. Il dit, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Que la glorieuse personne de notre Seigneur Jésus-Christ soit bénie, louée et adorée éternellement. Amen.
En parlant, dans le Saint-Esprit.